France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Dans le Val d'Oise, nos carnets ont l'embarras du choix entre agriculture urbaine et culture alternative selon le sommaire de ce mardi. Culture alternative avec le collectif Zigzag qui présente la particularité de réunir des professionnels du médico-social et des artistes comédiens et clowns de l'association Les Zigonnés. Le résultat de cette réunion est la création de performances théâtrales avec des personnes porteuses d'un handicap, comme on a l'habitude de le dire. Ces improvisations ont été qualifiés d'exemples d'excellence par un programme européen d'inclusion des personnes handicapées, Matt K. Danet s'en expliquera tout à l'heure. Une certaine agriculture urbaine, pour commencer, avec une invention qui trouve un large écho auprès des collectivités.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Aurélie Deroux, bonjour.
Bonjour.
On va parler de votre invention et de votre entreprise économie sociale et solidaire qui s'appelle le Cocotarium. Si je peux me permettre la question, c'est un projet que vous avez couvé pendant de nombreuses années.
Pas mal. Oui, en fait, l'idée est née il y a 4 ans maintenant pour répondre à un concours qui avait lieu sur Paris qui s'appelait le concours Jardin-Jardin au Jardin des Tuileries. Mmh. Voilà.
Et l'idée, c'est d'installer des poulaillers urbains, enfin de les proposer aux collectivités, aux communes, en échange de quoi les habitants peuvent apporter leurs biodéchets. Et évidemment, les poules participent à cette gestion des biodéchets.
C'est ça. L'idée, c'était vraiment de pouvoir répondre aux enjeux de 2025 qui répond à cette loi sur la transition énergétique qui va imposer à tous les particuliers de trier leurs biodéchets à la source. Et l'idée, c'était de donner envie aux gens de changer leurs habitudes de vie sans trop de contraintes et avec bonne humeur et en plus de pouvoir bénéficier d'eux en échange.
Mmh. Je vois vos fiches de présentation qui sont très chouettes. Je vois les nouveaux commerciaux du Cocotarium, c'est Monique et Marceline qui sont deux poules. Donc une poule peut assimiler jusqu'à 150 kilos de déchets organiques par an. Il y a eu des expériences avec les poules, c'était de proposer à des habitants qui avaient un espace plutôt dans des milieux ruraux ou périurbains de prendre une poule chez eux. Alors vous allez plus loin, donc ce sont des volières qui peuvent atteindre 4 mètres d'eau.
5 mètres de haut même, mais oui, c'est ça. En fait, c'était pour répondre à la problématique des personnes qui vivent en ville et qui n'ont ni espace sur leur balcon ou dans leur jardin pour s'occuper de poules, et ni le temps non plus, puisque on sait que les citadins passent beaucoup de temps dans les transports, et du coup, ce temps-là, c'est du temps en moins pour s'occuper de son jardin, etc.
Alors, le projet est né chez vous, à Neuville-sur-Oise. Les premières communes à répondre à votre appel?
Nous, on s'est concentré surtout sur l'Île-de-France parce que c'était géographiquement beaucoup plus simple. Mais le projet a plu à pas mal de particuliers en général. Et on est appelé un peu partout en France pour répondre à des besoins de particuliers qui souhaiteraient mettre des cocotariums dans leur ville. Alors après, bien sûr, il faut l'accord des maires, etc. Mais on a beaucoup de demandes à l'heure actuelle qui viennent en dehors des frontières de Paris et de sa région.
J'ai une photo d'une volière. Enfin, du Cocotarium, et ce qui est impressionnant, effectivement, 5 mètres de haut, 4 mètres de large, ça ressemble un peu, je le vois sur un square, dans un square de ville, un peu à un kiosque.
C'est exactement ça. En fait, on s'est inspiré des kiosques à musique d'antan, qui sont ces lieux où les gens se retrouvaient pour assister à des concerts. C'était en fait des lieux communs où les gens partageaient un moment ensemble. Et l'idée du Cocotarium, c'est de retrouver ça, d'être un prétexte en fait pour faire en sorte que les gens se croisent et que ça recrée du lien social au cœur des villes, mais pas seulement, parce qu'on s'introduit aussi dans les entreprises. Et l'idée, c'est de redonner un peu du sens aux gens dans leur quotidien et de leur apporter une raison de plus d'aller travailler chaque matin et aussi de pouvoir échanger avec ses collaborateurs autour d'un projet commun. Et voilà, c'est vraiment ramener la campagne en ville, mais pour répondre un peu à ce besoin de quête de sens qu'on a aujourd'hui pour la plupart.
Alors, dans la collectivité, l'entreprise, les habitants ou les salariés peuvent avoir un sac, enfin ils vont avoir un sac dans lequel ils déposent leurs déchets alimentaires qu'ils viennent apporter au Cocotarium. Et en échange de cela, ils ont des œufs.
Oui.
C'est aussi simple que ça.
Oui, Alors, il y a plusieurs modèles, si vous voulez. Le premier, c'est celui-ci. Effectivement, on dépose ses déchets, on s'occupe des poules, du coup, on récupère des œufs. Mais il y a aussi d'autres fonctionnements. Il y a un fonctionnement qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, mais qui est pour nous un fonctionnement qui nous donne envie. C'est de faire travailler des structures d'insertion pour toute la logistique.
Oui.
Et de permettre de mettre ces œufs ensuite en point relais dans les commerces de proximité pour lancer l'activité locale et permettre aux habitants de redécouvrir leur boulanger, leur poissonnier, leur charcutier, les sensibiliser sur leur mode d'achat, mais aussi d'être récompensés à travers leurs actions du quotidien et de manger des bons œufs frais.
Vous donnez un objectif, 2020, 50 cocotariums en France ?
Oui, c'est plus.
J'espère. Parce que combien de personnes peuvent bénéficier du dispositif autant que l'on veut ?
Oui. Il n'y a pas de limite. Après, s'il y a trop de succès, effectivement, il faut mettre un autre cocotarium. Plus il y a de personnes engagées et plus ça veut dire que notre mission fonctionne et plus ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les gens sont prêts à changer leur mode de vie, parce qu'il y a une vraie sensibilisation. En fait, toute cette concentration d'énergie positive multipliée à l'échelle de la France, c'est énorme, en fait.
Oui, oui. Bravo. Et puis, je signale que le cocotarium aussi propose des animations pour les groupes scolaires, des ateliers de recyclage, de cuisine, de jardinage. Voilà, en parallèle de cette démarche. Cocotarium.fr, on aime vraiment beaucoup. Merci Aurélie.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Nos confrères du magazine Village ont la bonne idée de publier un hors-série consacré au renouveau de l'alimentation de proximité. Et bien des choses ont changé depuis 10 ans et depuis la définition des circuits courts, je cite, comme un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Fin de citation, selon donc le ministère de l'Agriculture. Ce qui a changé tient d'abord au nombre de ceux-ci, à l'apport d'une rémunération supplémentaire indispensable aux producteurs et aux agriculteurs. Selon une étude menée par l'INRA en 2017, et c'est ce qui ressort du hors-série du magazine, sur 100 euros dépensés dans un magasin de proximité par des consommateurs, 91 euros reviendraient aux producteurs, fournisseurs et aux salariés. Ce qui a changé, c'est la reprise en main par les consommateurs eux-mêmes d'espaces de vente sous forme de marché ou supermarché coopératif et participatif. Leur série donne l'exemple, parmi d'autres, du Super Quinquin, on en avait parlé, Super Quinquin de Lille, qui fédère aujourd'hui 1300 sociétaires qui emploient 4 salariés et un directeur de vente et qui a atteint en 2018 un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. On n'a pas les bénéfices exacts, mais en tout cas, c'est déjà un chiffre d'affaires certain d'1 million d'euros. Par ailleurs, les circuits d'alimentation locale se sont structurés depuis peu à l'image du réseau mixte technologique de l'alimentation locale, quel nom. Ce réseau, agréé par le ministère de l'Agriculture, lui aussi, regroupe une 30aine d'organismes de recherche, de développement et de formation. RMT, trait d'union, alimentation, trait d'union, local.org pour l'adresse. C'est un peu longuet, vous allez trouver ça, évidemment, développé à nos pages d'émission sur franceinter.fr et aussi sur notre page Facebook, ainsi qu'un lien avec le hors-série du magazine Village. Matt K. Danet, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Matt, vous êtes à l'origine d'un collectif qui nous plaît énormément. Il s'appelle Zigzag, il est basé à Vauréal. Il nous plaît parce que il mélange à la fois des professionnels du médico-social et des artistes, et en particulier artistes comme vous, clowns entre autres.
C'est ça, oui. Zigzag, c'est un rassemblement, un collectif de médiateurs artistiques, d'art thérapeutes, de professionnels du médico-social, et on propose des médiations artistiques dans plein de disciplines, ouais, plein d'arts différents.
Et vous formez aussi donc ces professionnels du médico-social à Cergy ?
Alors, on intervient effectivement dans ce qu'on appelle le cadre des techniques éducatives, donc à l'école pratique des services sociaux. Régulièrement, on vient initier pour 5 jours, 2 jours, 3 jours les futurs professionnels aux techniques de médiation. Donc là, pour le coup, c'est le théâtre ou le clown, mais comme on développe aussi l'écriture adaptée, choses comme ça, voilà, on propose ça dans le cadre de leur formation.
La base de votre travail est un spectacle que vous avez intitulé Balbutio, qui est fait d'une trame que vous composez, sur laquelle viennent se greffer des personnes handicapées, dans une totale impro.
Total impro, ouais, 100% impro. C'est une technique éducative qu'on a mis au point il y a presque une dizaine d'années. Parce qu'en fait, nous, ce qui a été un peu notre point de différence, c'est qu'on a vraiment décidé de travailler avec des personnes qui n'avaient pas les capacités nécessairement requises pour pratiquer le théâtre comme on se le représente. Et puis, on a quand même essayé de travailler, on a cherché des choses. Et puis, finalement, on a mis au point un peu cet outil-là qui est l'accompagnateur, qui est une personne qui va passer plutôt par les langages du corps sur scène, en impro avec les personnes pour finalement apprendre à jouer. Et puis, un jour, tout simplement lors d'un festival qu'on organise par ailleurs, on a dû annuler un spectacle. On a appelé un copain pianiste qui est là pour donner un peu une ambiance musicale, un cadre narratif, un cadre temporel à ces impros. Et puis avec les gens qui étaient là dans la salle, y compris des personnes en situation de handicap, des institutions qui étaient invitées, eh ben on s'est lancé dans des impros totales, sans connaître les personnes.
Et ça aurait pu donner naissance à des ateliers, ce qui se pratique régulièrement. Est-ce que c'est le cas ?
Nous, on continue de faire ces impros-là dans le travail au quotidien, dans le cadre des ateliers, puisque ça reste toujours une technique éducative dont on se sert. Mais maintenant, depuis que le spectacle existe, on essaye de créer le spectacle aussi et de continuer d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas.
Mais ça veut dire que vous avez mis au point une méthodologie ?
Complètement. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, surtout sur la médiation théâtre et clown. On est assez content de ça parce que c'est vraiment une démarche qu'on pense innovante. C'est-à-dire qu'on propose à la fois sur un versant comme ça de libre jeu total. On propose d'accompagner les personnes dans ce qu'elles ont à dire, là où elles en sont, avec ce qui elles sont. C'est à nous de faire ce travail, d'aller accompagner, d'aller soutenir leurs propos, leur volonté d'expression, leur langage.
Et j'apprécie la qualification qui vous revient d'accompagnateur. Alors, on connaît maintenant les consommateurs, des personnes qui agissent aussi en relation avec les producteurs pour aller vers une consommation nouvelle, saine, et sans les dérivés et les déviations que l'on connaît. Et vous, vous dites accompagnateur.
C'est ça. On accompagne, d'ailleurs on ne sait pas, elle est intéressante cette formulation parce qu'elle marche un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va accompagner des acteurs en devenir, et puis nous sommes aussi des acteurs accompagnants. Donc en fait finalement tout le monde est acteur, et puis le travail se fait, et le jeu surtout, se fait sur un terrain d'égalité. Il n'y a plus de questions de posture éducative en fait.
Ouais. Et qu'est-ce que vous faites avec l'école des arts déco ?
Alors les arts déco, en fait quand on a découvert Balbutio, on a commencé comme ça, complètement accru, sur un plateau vide, et puis on a travaillé avec des objets qui facilitent, qui aident, qui sont aussi un étayage, en fait, qui sont des supports, des appuis de jeu, et puis on a commencé à les rendre plus sophistiqués, mais d'un point de vue scénique, et puis ça a intéressé les arts déco qu'on avait sollicité sur la question, puis ils se sont vraiment pris de passion pour le projet, et donc deux années de suite, des élèves de scénographie et de design ont créé des objets relationnels qu'on a donc testés. Les publics se sont rencontrés autour de ce projet. Et puis l'aventure continue cette année encore avec une exposition de ces objets. Peut-être une publication aussi autour de cette aventure.
À nos pages d'émission, les liens avec Balbutio, ce dispositif, avec le collectif Zigzag et évidemment zigzag-théâtre.com pour l'adresse de ce groupe très original, ce collectif de professionnels du médico-social et des arts. Merci Matt.
Merci beaucoup Philippe, merci.
Demain, toujours dans le Val-d'Oise, nous appellerons l'entreprise sociale Thérapie qui crée et qui fait vivre des jardins thérapeutiques dans le département. Et puis, nous appellerons aussi le collectif O-Watt, fondé par des habitants de Cergy-Pontoise pour la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. La semaine prochaine, je fais un petit rappel, j'en profite pour vous dire que nous serons dans le Bas-Rhin avant d'aborder la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et l'Eure pour le mois de novembre. N'hésitez pas à nous écrire toujours depuis ces départements. Et début décembre, la Sarthe et le Val-de-Marne.